Le royaume de Dieu est là. Nous avons vu dans mes deux études précédentes que Dieu nous prépare quand il vient vers nous parce que nous ne sommes jamais préparés pour lui. Et nous avons vu les commencements de la bonne nouvelle de Jésus. Et nous avons vu que Jésus était baptisé, il était commissionné pour son travail, par son baptême et par la venue du Saint-Esprit sur lui. Il est allé remporter la victoire contre Satan dans le désert, dans la tentation. Et maintenant, il commence son ministère public. Le royaume de Dieu vient et est venu par terre. C'est important pour vous parce que Dieu a commencé quelque chose, a débuté quelque chose qui ne finira jamais, qui est là, qui est au milieu de nous. Et nous devons le comprendre. Nous pouvons le voir tel qu'il est. Il s'est manifesté visiblement dans cette venue de Jésus, dans ses premières actions. Et je vais vous expliquer pourquoi vous ne voyez pas aujourd'hui ce que ces gens ont vu. Mais nous allons commencer. Voilà un voyage. Ça commence à Marseille, et puis Aix. Et puis au bagne, et puis on revient à... Allez-y, dites-moi, on revient à Aix, et puis à Marseille. Ah, vous auriez dû savoir. On a fait un voyage, on a atteint un point, et le retour, c'était l'aller, mais à l'envers. Quand on fait ça dans la littérature, quand on écrit quelque chose où le début, on le retrouve à la fin, le deuxième étape, on le trouve dans l'avant-dernière étape, et il y a un milieu, on appelle ça un chiasme. Et les Hébreux aimaient beaucoup utiliser les chiasmes. Et nous avons un chiasme dans ce passage, c'est pour ça que nous avons lu un grand passage, parce que le chiasme est là pour nous dire, tout cela, ça fait partie d'un même truc. Tenez ça ensemble. Et surtout, souvent, dans le chiasme, regarde au milieu, parce que là, il y a un point très important. Vous voulez voir le voyage? Ok. Regardez d'abord au verset 16 du chapitre 1. Et où est-ce que nous commençons? Comme il passait le long de la mer de Galilée. Mer de Galilée. Ok, retenez bien, ça commence non pas à Marseille, mais la mer de Galilée. La mer à la mer. Et qu'est-ce qu'il fait là? Bon, la Bible dit qu'il voit Simon et André, si vous jetez les yeux sur le passage, et il les appelle, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. OK? La mer, et là, à la mer, il appelle des disciples. OK, deuxième étape. La deuxième étape, on le trouve dans le verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. À Capernaum, OK, deuxième étape. Troisième étape, verset 39. Nous savons qu'il passe la journée à Capernaum, il guérit, machin, tout le monde vient à la porte, et puis il dit qu'il doit aller ailleurs. Et dans le verset 39, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. La mer de Galilée, Capernaum, toute la région de Galilée. Ça, c'est le milieu. Maintenant, on va revenir. Où est-ce qu'il doit aller après? Dites-moi. Quelle est la prochaine étape, si c'est un chiasme? Ne regardez pas la Bible, vous n'avez pas besoin. Ah, Capernaum. Maintenant, regardez la Bible. Chapitre 2 et verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et l'étape après, c'est où? La mer de Galilée. Verset 13 du chapitre 2. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Regardez bien, toute la foule venait à lui, il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. À la mer de Galilée, au début, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes, Simon, André, Pierre, Jean, Jacques. À la mer de Galilée, à la fin, Alphée, Lévi, suis-moi. Donc, le début et la fin, c'est comme des serre-livres. Et entre ces serre-livres, il y a tout un tas de choses que nous allons comprendre. Quoi? Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cela? Quand Dieu vient vers vous dans son royaume, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Bien, je veux vous donner notre point d'introduction et puis nous aurons trois points dans le sermon. Trois points simples, vous n'allez pas oublier, mais il faut se mettre dans le bain. Parce que nous n'étudions pas un texte, nous sommes en train de regarder un fait historique, quelque chose qui s'est passé. Nous sommes en Galilée, au 1er siècle. La vie que va comme toujours, c'est-à-dire souvent mal, parfois pas aussi mal que cela. Mais en Galilée, on trouve quoi? On trouve des malades de toutes sortes, des infirmes. Ça me rappelle de manière poignante de l'Afrique un peu quand je pense à ça. Nous voyons des gens affligés d'esprits impurs, oui, démoniaques, on les voit. On voit des gens qui ont quitté la foi, la religion, les collecteurs d'impôts dont il est question à la fin, comme Lévi, fils d'Alphée. On voit des gens qui pensent qu'ils sont très religieux, mais remplis de justice ce soir, comme ces pharisiens qui parlent à Jésus. Ils sont tous là, mais vraiment là. C'est le premier siècle, c'est la Galilée, c'est comme ça. Et Jésus de Nazareth arrive. Il arrive du désert où il a remporté la victoire contre Satan. Et vous avez vu, et nous allons voir en détail, mais il commence à faire des miracles incroyables. Des boiteux marchent, et marchent vraiment. Ça s'est passé. Des lépreux sont guéris de la lèpre, mais vraiment guéris. Jésus prêche dans les synagogues, il annonce une bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il dit aux gens, si vous étiez là, vous l'auriez entendu, le Seigneur m'a envoyé pour laisser libres les captifs, pour annoncer une année de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Tout le monde entend, c'est stupéfiant, et même dans un des versets que nous avons lu, il dit que les gens sont stupéfaits. Le mot en grec signifie frapper avec un objet de sorte qu'on perd les sens. Quand il voit cet homme affligé d'esprit impur qui est guéri par Jésus, qu'est-ce que vous auriez fait là? Si vous aviez été là, de voir un aveugle né qui voit, ils étaient comme frappés d'un marteau. Ils ne s'en reviennent pas. Et je vous dis que dans une situation comme ça, bien que tu vois la chose, tu as de la peine à le croire. C'est ça qui se passait en Galilée, dans le premier siècle. Et les gens ont dit, à la fin de ce passage, au verset 12 du chapitre 2, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et c'est vrai. Et vous n'avez pas vu des choses comme ça. Et c'est normal. Parce que c'est quelque chose d'ailleurs. Ça n'appartient pas à ce royaume, ce monde, cet âge. Parce que le royaume de Dieu, c'est le ciel qui vient sur terre. C'est un autre monde glorieux, le monde de Dieu, qui envahit cet âge. Les gens ont donc un petit aperçu, juste un aperçu, pendant 3 ans, de la gloire de Dieu. De ce que c'est, si Dieu lui-même vient marcher sur terre. Et ils voient la puissance de Dieu, et ça les étonne, ils sont vraiment étonnés. Et ils voient aussi, attention, ils voient aussi l'amour de Dieu. Vous ne l'avez pas perçu dans le passage? C'est pas simplement de la puissance qui agit. Quelqu'un qui dit « Oui, sois guéri ». Et il y a des guérisons comme si une force impersonnelle agissait. Une force, la puissance, ça peut être mauvaise, ça peut être bien, ça peut être indifférente. Mais c'est pas la force, c'est quelqu'un qui a une autorité, lui, dans sa personne, mais plein d'amour. Je ne sais pas si vous avez vu les marques d'amour. Qu'est-ce qu'il devait ressentir dans la Galilée? Parce que Jésus se garde éveillé toute la nuit. 9h, 10h, 11h, minuit, les gens viennent. Il est fatigué. Il est fatigué. Je me souviens à la veillée de la nuit après la mort de mon papa, au centre funéraire, nous avons dans notre culture une habitude qu'il y a une visite. Et tous les amis viennent visiter la famille du défunt qui est là dans le cercueil, au pont funèbre. Et je me souviens qu'il y a eu tellement de gens qui sont venus que on a dû appeler les policiers parce qu'il y avait des voitures partout et ça encombrait le trafic dans la rue qui était à côté. Et un des directeurs de la pompe funèbre a dit qu'il était très rare qu'il ait vu tant de gens. Alors, des gens qui étaient dans une queue, qui sortaient du bâtiment et qui allaient très loin, et certains devaient attendre 2 heures pour arriver à ma mère et à nous, pour juste nous saluer et nous dire leurs condoléances. Et je me souviens que ma maman, dans son état, vous pouvez imaginer son état exténué à cause de ce décès de mon papa, elle était debout pendant au moins 4 heures d'affilée. Et je me souviens à plusieurs reprises, on a dit, maman, mais assieds-toi, voilà une chaise. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Elle trouvait ça indigne d'être assis quand tous ces gens sont venus parfois de loin pour lui dire leur regret. Et moi, je croyais qu'elle allait tomber dans les pommes, certainement. Mais mettez-vous à la place de notre Seigneur Jésus. Je vous raconte cette histoire simplement parce qu'on doit réaliser qu'il y a quelque chose de réel qui se passe. Et les heures, et Jésus est en prise avec des maladies, des personnes, une foule, toute la ville est à la porte, des démoniaques. Et donc, heure après heure, il est là, et il refuse de s'asseoir, il refuse d'arrêter, jusqu'à ce que la dernière personne soit guérie. L'amour de Jésus, c'est pas simplement la force qui est au travail. On le sait parce que quand le lépreux vient à lui, cette personne qui, vous savez qu'il y a non seulement le problème physique, mais il y a un problème affectif grave dans la lèpre. C'est quoi? Vous savez? C'est que pendant des années, personne ne m'a jamais touché. Tout le monde a pris de la distance de moi. Et même selon la loi de Moïse, personne ne pouvait. C'était contre la loi de Dieu de toucher. Personne ne m'a jamais embrassé. Personne ne m'a jamais donné un câlin. Personne ne m'a jamais serré la main. Personne n'a jamais touché mon épaule. Et ce jour-là, quand il est guéri, la Bible dit, le passage dit que Jésus le toucha. Pour d'autres, il a juste dit un mot. Mais pour lui, exprès, il dit « Sois guéri ». Et la manière dont je suis guéri en tant que lépreux, il m'a touché. J'étais choqué qu'il me touche. Mais j'ai senti un tel amour. Quand il parle à ce paralytique et qui descend par le 3, ses amis le laissent descendre et il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, mon fils. Et il fallait être là parce que les tonalités et les gestes et tout parlaient de l'amour, de la compassion, de la grâce de quelqu'un qui sauve parce qu'il se soucie. C'est le royaume de Dieu, ça. C'est Dieu qui installe sa manière d'être chez les hommes. Les hommes ne savent pas ce qui se passe, sans doute, dans la Galilée. Ils se questionnent, ils se parlent. J'aurais bien aimé être là, et sans doute vous aussi, pour voir comment ça parlait entre eux. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Comment est-ce qu'on pouvait le décrire au voisin, au cousin qui habitait plus loin? Vous n'allez pas me croire. Mais voilà ce qui s'est passé. Et quelle est l'explication? C'est vraiment comme si le ciel de Dieu est descendu chez les hommes. C'est ça. Et c'est ça. Jésus l'explique dans le verset 14 du chapitre 1. Et là, je termine cette longue introduction et on va aborder ces trois points sans beaucoup de détails. Mais, donc après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. C'est ça l'explication. Le règne de Dieu est là. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais ça j'entends souvent, mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas exactement un truc. Le royaume de Dieu est d'ailleurs une personne, un roi, qui vient établir son règne. Et qui dit royaume dit autorité, n'est-ce pas? Royaume, régner, autorité. Et si vous avez remarqué, partout dans ce passage, on parle d'autorité. Je vous donne juste un exemple ou deux. Par exemple, au début, quand il va chasser le démon de cet homme dans la synagogue, nous lisons dans le verset 27 du chapitre 1, « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité. » Et juste avant ça, ils avaient été frappés au verset 22, « Car Jésus enseignait comme ayant autorité. » Mais si nous allons à la fin du passage, nous retrouvons la même chose. Quand il va pardonner le paralytique, nous lisons ceci au verset 6 du chapitre 2. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé, de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir, c'est le même mot grec, autorité, l'autorité de pardonner les péchés, je dis, « Lève-toi. » Maintenant, je voudrais vous donner un petit moment de dico, de dictionnaire. Alors, l'autorité, c'est quoi? Alors, si vous devez écrire un examen, définissez le mot autorité. Qu'est-ce que vous diriez? L'autorité, c'est un peu comme un de ces mots que on connaît tous ce que ça veut dire, mais on ne peut pas l'expliquer. Vie, vie, c'est quoi? La vie, c'est le temps, c'est quoi? L'autorité, c'est avoir le droit et la puissance ou le pouvoir d'imposer ta volonté sur d'autres. Quand tu as l'autorité, tu as le droit et le pouvoir d'imposer ta volonté, ce que tu veux voir arriver, sur les autres. Par exemple, le roi d'un pays, il a le droit et le pouvoir de vous faire rouler à 130 à l'heure sur l'autoroute, ou le président. Ou bien, si vous voulez, chacun de vous, vous avez l'autorité sur votre bras. Vous avez le droit, parce qu'il est à vous, et le pouvoir de faire bouger ce bras là où tu le veux. Imposer au bras qui bouge où toi tu le veux. Mais attention, tout le monde n'a pas l'autorité sur le bras. Parce qu'il y a le criminel qui est dans le minute, il a le pouvoir, il est capable de bouger son bras, mais il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit de bouger ses bras où il veut. Donc il n'a plus l'autorité sur ses membres. Ou bien cette personne qui a eu donc un petit vaisseau dans le cerveau qui s'est éclaté. Et maintenant, il a le droit de bouger son bras. Personne le menotte, mais il n'a pas le pouvoir. Donc le bras ne bouge pas où lui, il veut que ça bouge. Pour avoir l'autorité, il faut avoir le droit sur quelqu'un d'autre et le pouvoir. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu envoie son Fils dans le monde pour imposer son règne de puissance, de justice et de bénédiction et d'amour, de faire en sorte que cela arrive chez les hommes que Satan tenait, par son autorité, Jésus les reprend et les met sous une autre sorte de règne. Ok, nos trois points. Nous allons poser simplement trois questions. Quelle est l'étendue du royaume de Dieu? Quel est le secret du royaume de Dieu? Et quelle est la priorité du royaume de Dieu? Ok, on va pas le temps d'aller très loin, mais vous allez voir. Alors, nous voulons savoir quelle est l'étendue du royaume de Dieu. Jésus a-t-il l'autorité de faire quelque chose pour vous et de faire croix pour vous? Sur quoi a-t-il le droit et le pouvoir de changer les choses chez vous? Eh bien, nous voyons d'abord que Jésus a l'autorité sur les hommes et leur futur. Au début du passage et à la fin, nous voyons Jésus qui dit à certains gens « Suivez-moi » et ils changent leur vocation, leur métier, leur carrière. Dans un moment, ces gens ne sont plus pêcheurs de poissons, ils sont pêcheurs d'hommes. Et c'est étonnant. Jésus dit « Suivez-moi » et il y en a qui quittent carrément leur papa tout de suite dans la barque avec les employés et qui s'en vont. Parce que Jésus est le roi du ciel et de toutes choses, il a une autorité, le droit et le pouvoir de changer votre avenir, de votre appartenance. Et vous savez que c'est ce que Dieu veut faire, parce que vous êtes à lui. Et parce que votre destinée, c'est lui qui voulait que ce soit une destinée avec lui, dans son amour, dans la bénédiction d'une relation avec Dieu. Voilà la première chose. Deuxièmement, Jésus a l'autorité sur les démons et leurs activités qui asservissent les hommes. Vous avez vu dans la synagogue donc ce démon qui crie « Je sais qui tu es, tu es venu pour nous détruire, tu es le saint de Dieu. » Et Jésus dit « Tais-toi et sors de lui. » Et le démon est obligé. Lui qui n'a jamais été obligé par qui que ce soit sur terre, il a été obligé de quitter cet homme tout de suite. Il perd son pouvoir sur cet homme. Voilà cet homme libéré, affranchi. Tu dis, mais moi je ne suis pas possédé. La Bible dit que la prise que Satan a sur les hommes se manifeste différemment. Mais la Bible dit que tout homme est aux prises du diable avant que Jésus ne vienne par son autorité établir son règne dans la vie de cet homme. Éphésiens 2, nous marchions selon la puissance du prince des airs, c'est-à-dire Satan, et nous étions comme tout le reste. Jésus a dit, celui qui pêche est esclave du péché. Et il dit même aux pharisiens, vous êtes fils de votre père, le diable. Il y a un monde spirituel et tout homme et toute femme est prisonnier du diable. À moins que Dieu vienne dans sa bonté et dans son pouvoir pour bénir l'âme en affranchissant. Troisièmement, Jésus a l'autorité sur la maladie et la difformité physique. Vous avez vu dans le passage que tout le monde vient à la porte, que la personne ait une maladie de peau comme la lèpre, ou bien paralysée, une difformité, peut-être du cerveau, qui cause la cette condition paralysée, Jésus montre qu'il a une autorité sur le monde physique. Et là, aujourd'hui, le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut guérir. Mais attention, nous ne voyons pas les guérisons comme Jésus a fait aujourd'hui. Parfois, exceptionnellement, Dieu permet, en réponse à la prière, qu'on voit une guérison comme cela. Cela arrive. Mais là, ce n'était pas une exception. C'était tout le monde dans la ville était guéri. Là où Jésus se rendait, plus de maladies. Pourquoi est-ce que nous ne voyons plus cela? Parce que Jésus n'est plus là. Mais il revient. Écoutez bien. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ce qui se passait dans le nord de Galilée à l'époque, c'était un échantillon. Voilà, je m'explique. Vous arrivez devant un jour un centre commercial, il y a là un boucher. Et en dehors du magasin du boucher, il y a une petite dame avec une assiette et des saucissons. Et elle vous dit, est-ce que vous voudrez goûter? Et vous dites, bien sûr que oui. Et vous goûtez les saucissons. C'est un échantillon. Mais vous n'allez pas trouver en dehors du magasin des saucissons entiers. Et vous n'allez pas trouver du saucisson, même en petite quantité, tous les jours en dehors de ce magasin. Vous n'allez pas le trouver parce que c'était un échantillon. L'échantillon, c'est pour vous montrer ce qui est ailleurs en plus grande quantité. C'est pour vous montrer qu'à l'intérieur, il y a des vrais saucissons. Jésus nous vient pour un moment nous donner un échantillon de ce que le royaume de Dieu va faire en quantité gigantesque quand il revient et quand le paradis sera là. Nous aurons la guérison, tout le monde qui appartient à Christ et complètement. Mais il vient juste pour nous donner. Ne pensez pas que vous allez trouver ça tous les jours. Comme les saucissons en dehors du magasin. C'est un échantillon. Maintenant, vous n'avez plus jamais besoin de poser la question pourquoi il n'y a pas de miracle aujourd'hui comme à l'époque de Jésus. Vous n'avez plus besoin de poser la question. Vous n'allez pas chez le boucher pour dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de saucisson gratuit ici tous les jours en dehors du magasin. Vous n'allez pas demander ça, sauf si vous êtes fou. Parce que vous savez que c'est un échantillon. Et Jésus donne un échantillon d'un aspect du royaume de Dieu. D'autres aspects, il va les faire complètement, même maintenant. Je vais vous en montrer un exemple. C'est le quatrième point, le dernier point. Jésus a l'autorité sur les âmes et leur futur, leur appartenance, sur les démons, sur les maladies et sur... Allez-y, aidez-moi. Le péché. Le péché, la culpabilité. Nous voyons ça dans le cas de cet homme paralytique, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te dis, lève-toi. Et sors. Donc, Jésus a bien montré dans le nord de la Galilée, il le fera ailleurs pendant 3 ans, il a montré à l'humanité, les hommes ont écrit les récits, les témoins multiples ont dit, il a montré qu'il est le Fils de Dieu qui fait venir le royaume de Dieu. Il l'a montré. Il l'a montré. Personne n'a jamais fait de telles choses et personne n'a prétendu avoir fait de telles choses dans l'histoire. Nous arrivons donc au deuxième point. Nous avons parlé de l'étendue du royaume de Dieu qui est très vaste parce que Jésus va tout remettre d'aplomb. Tout ce que Satan a gâché et vous avez gâché par votre péché, la maladie, le péché, les démons, des vies sans Dieu, dans une carrière qui n'a aucune place pour Dieu, tout cela, Jésus remet d'aplomb. Remet dans sa place, béni. Mais deuxièmement, quel est le secret du royaume de Dieu? Et là, dans le chiasme, il faut aller au milieu, parce que souvent, il y a un point important au milieu. Donc, nous allons au milieu. Et dites-moi, le milieu, c'était quoi? On avait Capernaum deux fois, et au milieu, on avait la région de Galilée, toute la Galilée. Ok? Allons-y, là, rapidement, on va voir ce qui se passe. C'est là que nous rencontrons cet homme lépreux, et nous lisons au verset 22 du chapitre 1 ceci. Regardez bien, parce que ça va être vite fait, mais vous allez voir le secret du royaume de Dieu, le secret même. Donc, il se trouva, je lis le verset 23, dans leur synagogue. Pardon, est-ce que je suis au bon moment? Ouais. Non, je ne suis pas. 40, verset 40. Donc, le verset 39 nous avait dit qu'il est allé dans toute la Galilée. Et verset 40, « Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendu la main, le toucha, dit, « Je le veux, sois pur. » Nous découvrons le secret de tous ces miracles. Ça se trouve où pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu dans le passage? Ça se trouve dans le simple vouloir de Jésus. Le lépreux, il comprend beaucoup de choses. Il dit, il y a seulement une question. Si toi, pas d'autre, si moi je voulais être guéri depuis longtemps, et tous mes amis, ça n'a aucune incidence. Mais si toi, tu veux, tu peux me guérir. Le secret du royaume de Dieu est dans la personne même et la simple volonté du Fils de Dieu. S'il veut, par son simple vouloir, par une parole, sois pur. Qui est-il? Pour qu'il puisse agir comme un créateur, il dit, et la chose est. Ça, c'est le secret du royaume de Dieu. Et c'est un mystère dans la personne de Dieu que vouloir, c'est pouvoir. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que tu sois pur, tu es pur. Tes péchés te sont pardonnés. Un homme justifié devant Dieu pour toujours. Dis donc, qu'est-ce que ça doit être quand on dit oui à un tel roi? Et qu'est-ce que ça doit être si jamais tu décides plutôt de dire non à un tel roi qui possède une telle autorité? Bien, nous avons vu l'étendue et le secret du royaume de Dieu et nous sommes à la fin. Nous voulons comprendre la priorité du royaume de Dieu. Et voilà la question. Le Seigneur est venu et il nous montre le royaume de Dieu. Ce que Dieu veut sur terre, il commence à imposer. Il commence à refaire le monde selon Jésus, selon le Fils de Dieu, selon le Père. Il a le droit, il a le pouvoir, et il le fait en échantillon. Les gens sont guéris, délivrés, enseignés, pardonnés, mis en contact avec Jésus, maintenant ils sont ses disciples. Les choses, il y a un monde nouveau sur terre. Mais quelle est la priorité de Jésus et de Dieu dans tout cela? Quand il vient pour établir son royaume, de quoi se soucie-t-il le plus? Que veut-il changer en premier chez toi? Où veut-il imposer sa volonté de bénédiction, de puissance et de justice en premier? Je ne sais pas si vous avez des listes de choses à faire. J'en ai des dizaines. J'ai expérimenté avec toutes sortes de façons de planifier mes semaines, mes mois, toutes sortes de trucs compliqués, informatiques ou papier, des choses à faire par ordre de priorité, par ordre d'endroit, des courses, des choses à faire à la maison, des choses à faire au travail. Mais le plus souvent, je crois que ce qui marche pour moi, c'est des listes par priorité. Et en haut, j'ai certaines choses, parfois une seule chose qui dit « top priority », « top », la priorité est au top. Et ça, c'est la chose que je veux plus que toutes les autres, même si je n'arrive pas à faire les autres. C'est ça que je veux vraiment, que je dois accomplir aujourd'hui. Et moi, je vous demande, quelle est la priorité de Dieu dans ta vie, quand la raison pour laquelle il vient établir son royaume, imposer sa volonté, parce qu'il veut quelque chose. Si Dieu établit son royaume, c'est parce qu'il veut, je me suis contenu ici, jusqu'ici, mais je veux, j'ai une volonté, je veux et je veux que ma volonté s'impose et arrive chez les autres. Parce que c'est un amour. C'est un amour. Je veux te délivrer. Je veux t'épouser. Je veux t'amener à moi. Et quelle est la priorité du Seigneur? Nous le voyons à la fin du passage, le paralytique. Je ne vais pas relire le passage, mais vous savez ce qui s'est passé. Voilà, cet homme, ce jour-là, il est avec des amis, on a des trois plats en Israël à cette époque, et souvent il y a une trappe dans le trois. Sinon, ce n'est pas difficile d'en faire une, parce que c'est de la terre, on peut creuser. De toute façon, ils sont passés par le trois parce qu'il y avait tellement de monde dans la maison, il était impossible d'arriver à Jésus et surtout avec un homme paralytique. Ils le font descendre. Quels hommes, quels amis admirables. Moi, j'aimerais bien avoir des amis comme ça, n'est-ce pas? Ils reculent devant rien. Allez chercher les cordes, revenez, j'ai une idée. On va le faire arriver à Jésus. On le descend, et Jésus voit, je ne sais pas s'il a ri, je suis certain qu'il a souri, qu'il était content, parce que la Bible dit, voyant leur foi, il dit à l'homme, mon fils, et qu'est-ce que tu te serais attendu à ce qu'il dise quoi? Mon fils, tu es guéri de ta paralysie, n'est-ce pas? Il n'a pas dit ça. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et juste stupéfiante, il le laisse paralysé. Mais en règle avec Dieu, pour l'éternité. Parce que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Pour convaincre les gens qu'il a vraiment pardonné, parce que le pardon, on ne le voit pas, hein, c'est invisible. Il dit, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner, qu'il est vraiment pardonné maintenant, je vais faire une autre chose. Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à un homme, tu es pardonné? Ou dire à un homme, lève-toi et marche? Oh, c'est plus facile de dire que tu es pardonné, parce que personne ne va voir si ça se réalise ou non. Jésus n'a pas dit qu'est-ce qui est plus facile à faire. Il a dit qu'est-ce qui est plus facile à dire. C'est plus facile à dire simplement tu es pardonné. C'est invisible. Mais pour que vous sachiez que cette chose facile à dire, mais difficile à faire, c'est passé, je vais dire la chose plus difficile. Lève-toi et marche. Et l'homme, par le même pouvoir, il est guéri devant tout le monde. Il est guéri, on l'a vu. Il prend son lit et il marche. Et tout le monde est stupéfié. Pourquoi est-ce que Jésus s'occupe d'abord de son pardon? Parce que c'est là sa priorité. pour Jésus, c'est infiniment plus important. Et pour vous, si le Seigneur vous guérissait d'une maladie et vous vous perdez à l'enfer, à quoi bon aller en enfer entier dans le corps? Ça n'a aucune valeur et importance par rapport à votre besoin urgent d'être en règle avec Dieu. La priorité dans le cœur de Jésus, c'est je veux d'abord te pardonner. Je veux que tu sois réconcilié, ramené à Dieu, mis en amitié avec Dieu. Et sans doute le cœur de cet homme paralysé criait la même chose. Moi je pense, je soupçonne qu'il ne pouvait pas parler à cause de sa paralysie. Parce qu'il ne dit rien dans tout le récit. Mais dans son cœur, il savait que, oh, je suis paralysé, mais il y a une chose qui est beaucoup plus grave, c'est que je ne suis pas en règle avec Dieu. Oh, si je pouvais avoir le pardon. C'est pour ça que Jésus le guérit, le pardonne d'abord. Et je veux terminer juste en vous lançant ce défi. Nous allons joindre deux récits de Jésus dans ce passage, parce que le passage veut que nous le fassions. L'autorité de Jésus signifie que toi, aujourd'hui, tu peux te mettre à la place du lépreux et du paralytique ensemble. Comme le lépreux, tu peux t'adresser à Jésus et lui dire, comme le paralytique, « Si tu veux, Jésus, si tu veux, tu peux, sur le champ, me pardonner pour toujours. » Le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Que nous comprenions tous que le pardon, le secret du pardon, est en lui et son vouloir. Si tu veux, tu peux me pardonner. Et quelle est la réponse ? Nous savons, parce que c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la réponse sera, sans aucune exception, je le veux, sois pardonné. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si, non, Jésus dirait parfois oui, parfois non, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Mais la Bible le dit, et je termine avec ces versets pour vous montrer. Jésus a dit, après sa résurrection, que il était écrit que le Christ souffrirait, c'est Jésus qui parle, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péché seraient annoncés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations, donc à vous en France aujourd'hui, Jésus a prophétisé, et je le réalise aujourd'hui, Jésus a dit que le pardon vous serait annoncé en son nom. C'est-à-dire, je vous dirai que vous pouvez être pardonné. Christ a tout payé. Juste un autre verset. Acte chapitre 13. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit, fait confiance à Jésus, est justifié par lui. Je vous annonce cette bonne nouvelle. C'est ça le royaume de Dieu. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Et de vous guérir de toutes choses un jour. De vous ramener à Dieu, de faire de vous un disciple de Jésus à partir d'aujourd'hui. Mais vous devez répondre. Comme les disciples qui ont tout quitté et qui ont dit, c'est toi qui m'appelles, ce roi du ciel. C'est pas le pasteur, c'est pas un truc humain, c'est Dieu lui-même, le Fils de Dieu qui m'appelle moi. Par amour et qui me dit « Suis-moi ». Et il faut que tu répondes. Maintenant et avec confiance. Nous allons chanter pour nous préparer à la scène.